Pas de droit, pas de chocolat. Refuser. Cela semble être le mot préféré des hommes et femmes en chemise jaune pâle qui reçoivent les visiteurs à la prison de Chandelon. Peu des cadeaux que ces familles africaines, polonaises ou genevoises ont apportés atteindront leur destinataire. À chaque fois, c'est la même chose et nous en avons les larmes aux yeux. Condamné à 6 ans de prison pour l'ensemble de son œuvre, Antanas monte en l'air lituanien, attend le résultat de son appel. Du haut de son mètre 90 et avec son allure de monsieur propre, il espère qu'un juge professionnel atténuera la dureté de la peine qu'un jury de bons Suisses effrayés lui a décernée. En attendant, l'auteur de ces lignes lui rend régulièrement visite depuis que lors d'un bref séjour, ils partagèrent une cellule d'isolement. Les visiteurs, après avoir été passés au rayon X et informés des interdictions diverses, sont enfermés dans une salle d'attente vitrée. La souffrance est dans tous les regards, pas de poignée aux portes. La visite commence par l'entrée dans le parloir. Chacun s'installe à une table, dos au maton. Le gardien chef entre premier. Un blazer violet recouvre son immonde chemise réglementaire. Il scrute, puis laisse la place aux visités. Pour eux, commence une parenthèse vitale. Antanas ne reçoit jamais d'autres visites que celles décrites ici. Ses proches ne viendront probablement jamais. Tant la banalité de sa situation semble entendue, à chaque rencontre, il raconte un épisode d'une aventure commencée à 13 ou 15 ans, derrière les barreaux d'une maison de correction. Depuis, plus de 8 de ses 27 années d'existence l'ont été en détention. C'est la deuxième fois qu'il se trouve à Chandelon. La première fois, 3 ans de sa vie s'étaient écoulés à quelques centaines de mètres de son pays de cocagne, les villas milliardaires de colonies et vents d'œuvres, objets de sa convoitise. Il raconte avec truculence les intérieurs somptueux, piscine à bulles, jardins et décorations démesurées. Une maison comme celle des Teletubbies nous avons visité. Je ne savais même pas comment ouvrir la fenêtre, tellement tout était fait de courbes. Pas un angle. Imagine le prix que ça coûte de faire des fenêtres comme ça. À l'intérieur, nous ne savions pas quoi prendre. Aucun objet ne nous était familier. On peut pas prendre quand c'est trop beau. On voit que ce sont des artistes. Le récit tourne au rire, partagé, sans cependant dérider les couples étreints, parents consternés et gardiens distraits. Heureusement pour lui, il n'y a pas que des esthètes dans la riche banlieue de Genève.
Certains vivent dans des quartiers fermés, avec des gardes aux entrées. Personne n'y pénètre sans montrer patte blanche. Personne, sauf nous. En une nuit, nous avons vidé les maisons par derrière, pendant que les gardes rassuraient les voisins qui sortaient, en laissant portes et fenêtres ouvertes.
Les fenêtres, c'est sa spécialité. Aucune ne me résiste, mais généralement elles sont ouvertes. Parfois les gens dorment tranquillement pendant que nous trions leurs affaires, nous prenons les bibelots, l'argenterie et même leurs montres sur la table de nuit. Si tu savais comme ils sont riches, ils mangent dans l'argent. Le moindre Bouddha est en émeraude. Nous, en Lituanie, on vivait longtemps avec ça. Aujourd'hui, il ne pense plus à retrouver son paradis du cambrioleur. La prison qu'il décrivait il y a quelques mois encore, comme une simple formalité à laquelle il était depuis longtemps habitué, lui est devenu insupportable. Changer de prison, changer de vie. Les voyages carcéraux lui réussissent à merveille. Je me suis battue avec un gardien car il voulait me confisquer une bouteille de grappa. De grappa maison. Ça vaut une cartouche de cigarette. Alors ils m'ont envoyé en hôpital psychiatrique. L'œil pétillant, il raconte son séjour interrompu prématurément. Une histoire de vacances. Quel bonheur cet hôpital. Dommage que les infirmières aient fini par nous surprendre. Elles se doutaient bien que j'avais une liaison avec une co-détenue. Alors ils m'ont renvoyé ici. J'ai crié son nom durant la promenade et on m'a répondu qu'elle avait été expulsée vers son pays d'origine. L'heure tourne. Les robots ne vont pas tarder à se manifester. Antanas ne sait pas comment conclure. Avec ses congénères de toute taille, race et âge, il repart, le sourire crispé. Debout, les visiteurs observent la file des êtres chers encadrés de jaune pâle. La visite est un rituel dont les règles semblent immuables. Pourtant, elle varie imperceptiblement, fonction de la laisse, qui de mois en mois se rallonge dans les jardins de colonies. Après avoir interdit les bandes dessinées, même sans bulles, tenté de supprimer la télé, diminué le nombre des articles disponibles à l'épicerie de la prison et bourré les cellules de voleurs à l'étalage, la dernière trouvaille de l'État est d'interdire les colis de nourriture. Fini les pâtisseries polonaises, biscuits togolais ou chocolat suisse. Il est possible d'acheter de la nourriture sur place en versant de l'argent sur le compte personnel du détenu. Pas d'argent, pas de Suisse. Dans ce pays, on sait comment capter les capitaux, même les plus culturels et les moins économiques. Cette violence symbolique ne sera limitée que 3 fois par an, lors des trêves que le porteur de blazer violet ou gris ont d'ores et déjà décrété en vue des fêtes traditionnelles. Les familles, les amis n'ont qu'à se renseigner. Tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est strictement interdit. Et nous, visiteurs d'un jour, n'avons pas de droit face à cela. Et Antanas, pénitent au long cours, n'aura pas de chocolat. Isolé. Au début, nous étions 2, et puis je suis partie. Antanas est donc resté seul, isolé. Il avait dit que c'était la seule chose qu'il craignait, que la prison ne lui faisait pas peur et qu'il allait profiter de cette période de repos pour se refaire une santé et une musculature de rêve. Lorsqu'était venu le moment de nous quitter, il avait déploré le piteux état de ma musculature et m'avait assuré qu'un séjour plus long me permettrait sans aucun doute d'y remédier. Ce n'était pourtant pas Montana ou Biarritz, ça ressemblait plutôt à la ménagerie du cirque que l'on retrouve chaque année sur la plaine de Plainpalais. Comme un tigre suisse-allemand, il tournait en rond dans la cage qui tous les matins nous servait de paysage extérieur. 30 minutes hors des murs, sur le toit de la prison. 8 pas vers la gauche, barreau. 8 pas vers l'avant, barreau. C'était ça, la promenade. C'est ainsi que les athlètes de la savane se retrouvent à sauter dans un cerceau et grenier sur demande. On appelle ça la mission éducative. Ils criaient parfois en une langue incompréhensible des messages destinés à des compatriotes incarcérés en régime normal. Eux, au pied du bâtiment, comme les chevaux de l'ineffable Franco-Cni, couraient en rond dans l'arène. Aux fauves enfermés sur le toit de la prison, ils semblaient libres et heureux, batifolant sur l'herbe, en haut de la cage à la cellule. Le monde végétal vivant n'était qu'un fantasme parmi tant d'autres. Bientôt, Antanas se retrouva seul, totalement isolé. L'auteur de cet article ayant retrouvé d'autres fantasmes, moins triviaux, plus banals. Bien plus tard, il raconterait à cet épisode en perdant son éternel sourire. J'ai cessé de parler. C'était pas difficile. Il y avait personne avec moi. Mais au maton, je leur parlais plus. C'est venu tout seul. Je n'ai dû faire aucun effort. Mes cheveux et ma barbe ont poussé. C'était comme si après ton départ, j'étais sortie du monde. Au bout d'un certain temps, les prisonniers que je croisais, parfois, dans les couloirs et même les matons qui m'avaient pourtant vu arriver, ont commencé à penser que j'étais comme ça, muet et fou. Moi, j'avais rien à leur dire. Le juge d'instruction pensait que l'enquête nécessitait que je ne voie personne. Moi, je ne répondais plus que par grognement. Pour les besoins de l'enquête, le juge Kni avait transformé Antanas, cambrioleur lituanien, en bête humaine. 3 mois d'isolement, sans courir, sans parler, 23 heures sur 24 en cellule. Enfin était arrivé le jour où le brave magistrat avait décidé que son numéro était fin prêt. L'instruction terminée, il avait permis la fin de l'isolement. Antanas rejoignait les pelouses, les amis, les ennemis. Je me suis rasé la tête et la barbe. J'ai parlé. C'était facile. Il y avait des gens autour de moi. L'aveu. Je n'ai su qu'un jour à l'avance que j'allais devoir parler. On m'assied dans une pièce avec trois juges, une femme, procureur, mon avocat et mon interprète. Mon avocat fait son discours, puis on me demande de parler. Il n'avait pas de questions, il voulait juste que je parle. Je me lève et mon esprit s'arrête. Bla 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 bla. J'ai parlé une demi-heure de rien. La femme a dit que 6 ans, ce n'était pas assez pour un gars comme moi. Antanas ne regrette pas d'avoir fait appel de la décision du jury populaire qui l'a condamné à 6 ans de réclusion pour des cambriolages qu'il reconnaît et un incendie pour lequel il nie toute responsabilité. On a tous une dernière chance, il faut la saisir. Je dis à tout le monde que chacun a sa chance. Même si ça ne fonctionne pas, il faut essayer. Quand j'imagine les salaires de ceux qui m'ont jugé, ça me fait plaisir. Ces gens coûtent cher au gouvernement suisse. On a tous une dernière chance, faute de mieux. Après 3 mois d'isolement carcéral, seules 23 heures sur 24, Antanas avait fini par avouer. Avouez et vous serez libre, disent souvent les policiers aux suspects naïfs. Les juges, eux, sont plus cruels. Avouez et vous pourrez parler à un être humain. Antanas ne s'y était pas trompé, son supplice avait cessé après qu'il ait accepté de reconnaître avoir bouté le feu à une villa qu'il venait de cambrioler. Un geste absurde pour un cambrioleur professionnel. Son complice, lui, a eu la force ou la chance de ne pas céder. Il était libre le soir même du procès. À l'ombre. Aujourd'hui, jour de visite à la prison de Chandelon, le soleil brille. Devant le grand portail, les familles, les amis recherchent un peu d'ombre. Mais le soleil du printemps pénètre tous les esprits, même les mieux abrités. Derrière le premier portail, derrière le deuxième portail, derrière la porte vitrée, le portique magnétique, la deuxième, la troisième et la quatrième porte, le soleil est arrivé. Les matons sourient aux jeunes filles, seuls les fruits défendus semblent autorisés aujourd'hui. Les matones ne jouent pas les vierges effarouchées lorsque je leur présente les livres que j'ai apportés pour Antanas. Ils sont pourtant rédigés en langue bien plus incompréhensible que l'allemand, parfois refusé pour des motifs de sécurité. Aujourd'hui, rien n'est suspect. À l'ombre des matones, mes yeux brillent. Comme toujours, les prisonniers entrent en file indienne dans le parloir. Chacun sa madone, mère, femme, fille, toutes éblouissantes. Ils clignent des yeux et embrassent. Et moi, sans halo ni grande orgue, je tends un verre d'eau à monsieur propre, nettoyeur de coffres à bijoux de son état, si grand, si fort qu'il n'a besoin de personne. Désolé. Le soleil brille pour tout le monde, mais pas en même temps.
Sur l'île de Sakhalin, dernière terre russe face au Japon, la mère d'Antanas ne trouve pas le sommeil.
rebelle, jeune virus. Mon père l'a amené en Lituanie car il travaillait pour l'armée.
Se souvient son fils. J'ai dû choisir entre ma mère et mon père. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi mon père. Sakhaline. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être car elle buvait.
Aux antipodes, les éboueurs de l'aube arpentent Sunset Boulevard. L'ancien officier de l'armée rouge y fait son chemin. Il a tenté sa chance. Je ne sais pas pourquoi, j'ai choisi mon père. Sunset. Je ne sais pas pourquoi, peut-être car il avait étudié à l'université. Quand je suis allé pour la première fois en prison, à 14 ans, ma grand-mère a coupé tous les ponts entre nous. Dans le ciel, le soleil avance inexorablement de Sakhaline à Sunset Boulevard. La visite est terminée, les madones se retirent et nos yeux brillent. Délavés.